second livre des rois, chapitre 13, nous lirons à partir du verset 14. Le thème de notre réflexion de ce matin est la suivante. Temps fort et temps faible, comment les gérer? Second livre des rois, chapitre 13, versets 14 à 15. Lorsque Élisée fut atteint de la maladie dont il mourut, Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit « mon père, char d'Israël et sa cavalerie ». Élisée lui dit « prends un arc et des flèches ». Il se procura un arc et des flèches, puis Élisée dit au roi d'Israël « bande l'arc avec ta main ». Quand il l'eut bandé de sa main, Élisée posa ses mains sur les mains du roi et dit « ouvre la fenêtre vers l'est ». Il l'ouvrit, Élisée dit « tire alors » et il tira. Élisée dit « c'est une flèche de salut de la part de l'Éternel, une flèche de salut contre les Syriens, tu battras les Syriens à Afek jusqu'à les exterminer ». Élisée dit encore « prends les flèches ». Il les prit. Élisée dit au roi d'Israël « frappe contre terre ». Alors le roi d'Israël, c'est-à-dire Joas, frappa trois fois et s'arrêta. L'homme de Dieu fut saisi d'indignation contre lui et dit « il fallait frapper cinq ou six fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à les exterminer. Maintenant, tu ne les battras que trois fois. Amen. » Ce texte énigmatique nous montre un roi, Joas, qui est en présence de l'homme de Dieu, Élisée, qui est sur le point de mourir, mais qui va tout de même délivrer une parole de Dieu. Joas vient devant Élisée et Élisée a cette parole pour lui. « Voici, prends ton arc, bande la corde, et puis de là, tire à l'extérieur, et cette flèche sera une flèche de salut qui te montrera eh bien, que tu extermineras les Syriens. » Et puis, il va lui faire cette drôle de proposition. « Prends les flèches que tu possèdes et frappe-les par terre. » Frappe par terre. Et Joas va frapper par terre trois fois, et Élisée va lui reprocher de ne pas l'avoir fait plus souvent, de manière plus nombreuse, afin que les Syriens puissent être exterminés. Ce texte m'a emmené à une réflexion, de me dire que nous pouvons avoir des temps dans notre vie où Dieu agit d'une manière particulière. Nous pouvons avoir des temps bénis dans notre vie, avoir des opportunités qui sont ouvertes de la part de Dieu. Et la question que je me pose est de savoir comment est-ce que nous gérons ces temps forts. Et puis, à contrario, nous pouvons avoir des moments difficiles, des moments compliqués, des moments où il semble que toutes les écluses des cieux sont fermées, où toutes les promesses sont bloquées, où la main de Dieu est à l'arrêt, et où finalement, on ne sait pas trop comment vivre. C'est ce que nous intitulerons ce matin des temps faibles, et nous essaierons de voir également, de manière un peu plus sommaire, comment nous pourrons les gérer. Et vous, mes frères et sœurs, Joas est passé à côté d'une bénédiction, parce qu'il n'a pas su gérer ce temps fort devant l'homme de Dieu. Et je pense aux futurs nouveaux baptisés. Je pense aux nouveaux convertis. Je pense à ceux à celles qui vivent un renouvellement profond dans leur communion avec Dieu. Je pense à ceux à celles qui ont fait des expériences. Ne soyez pas comme Joas, mais profitez pleinement du temps de victoire que le Seigneur ouvre devant vous. Ne soyez pas comme Joas. Ne prenez pas une demi-victoire. Ne prenez pas une victoire à minima. Mais profitez de tous ces temps afin que le Seigneur vous bénisse. Pour étudier ce thème, la manière dont gérer nos temps forts ou nos temps faibles, j'ai choisi de réfléchir un petit peu sur la vie de David, de manière très simple, au travers d'éléments que vous connaissez. Mais je crois que David, dans la matière, est celui qui, dans la parole de Dieu, nous laisse le plus d'exemples pour nous montrer comment gérer nos temps forts et comment gérer nos temps faibles. Premier temps fort que David va connaître, et ça c'est un petit peu surprenant, c'est le temps fort où il ne se passe rien. Il dit, mais il ne se passe rien, donc ce n'est pas un temps fort. Eh bien si. On connaît la vie de David uniquement à partir de son appel. On sait que c'était un homme qui écrivait les psaumes, on sait qu'il gardait les troupeaux de son père. On sait que c'était un homme qui avait déjà une communion avec Dieu. Et je crois de tout mon cœur que ces temps où finalement que nous connaissons, où il ne se passe rien, rien de positif, rien de négatif, où notre vie chrétienne est un petit peu comme un long fleuve tranquille, vous savez, un petit peu platouné, on se dit, ouais, on a du plaisir à lire notre Bible, on a du plaisir à venir à l'église, enfin, c'est pas transcendant, quoi. C'est pas transcendant, on a connu mieux, on a connu pire, c'est une bonne moyenne. Eh bien, ces temps ne sont pas des temps moyens, ce ne sont pas des temps faibles, mais ce sont des temps forts, simplement parce que la Bible dit que toutes choses sont en travaux. Et alors que David gardait les troupeaux de son père, Il a appris des tas de choses. Il a appris qu'il pouvait vaincre un ours, que Dieu était celui qui pouvait lui permettre de vaincre un ours comme un lion. Et plus tard, ça lui servira lorsqu'il se trouvera devant Goliath. Il dira, Saül, il dira, mais c'est pas un problème. Lorsque un loup venait pour égorger mes brebis, je le prenais et puis je le renvoyais. Alors, ton géant de 3 mètres, hein, il va s'effondrer. Hein, parce que mon Dieu, celui qui m'a permis d'arracher mes brebis à la gueule du lion et de l'ours, il est capable de terrasser ce géant. De la même manière, il a pris l'obéissance à son père. Et je vous le dis de temps en temps, c'est difficile d'obéir à Dieu quand on n'est pas capable d'obéir aux hommes. Quand je suis insoumis aux hommes, de ce fait, ça m'est compliqué d'être soumis à Dieu. David, en gardant ses troupeaux et en vivant ces temps où il ne se passait pas finalement grand-chose, il a également appris à se battre, à utiliser la fronde, à utiliser le bâton. Et dans un des psaumes qu'il écrira, il dira, c'est toi, Éternel, qui me permet de tendre l'arc des reins. Et tendre un arc des reins, les reins, c'est quand même une matière sacrément rigide. Pour tendre un arc des reins, il doit falloir une force extraordinaire. Pourtant, c'est toi, Éternel, qui me le permet. Ainsi, dans ces temps moyens qui sont des temps forts, David a appris à compter sur la grâce de Dieu dans les petits détails, dans le quotidien de sa vie. Je crois que dans le quotidien routinier de notre vie, eh bien, il y a des applications spirituelles pour nous qui sont énormes. Je crois qu'il y a de grandes victoires qui sont devant nous. Je crois que nous avons des Goliaths à bien terrasser, mais auparavant, il faut que nous apprenions à terrasser le lion et puis l'ours. Auparavant, il faut que nous soyons capables eh bien, d'obéir aux hommes, de nous soumettre aux hommes, soumettre à notre patron, à nos parents, d'avoir des relations de couple qui soient équilibrées. Et ainsi, eh bien, le Seigneur agira et nous procurera des temps qui seront véritablement des temps forts. Ne sois pas frustré, mon frère. Ne sois pas frustré, ma sœur, de ne vivre que des temps moyens. Ce sont des temps de préparation. Et le Seigneur est en train d'agir. Ce sont des temps de jachère, en quelque sorte, où notre cœur, eh bien, pose des choses, où Dieu pose des choses extraordinaires dans notre cœur. Deuxième moyen de bien gérer nos temps forts, c'est que les temps forts doivent nous voir offrir de notre bonne santé spirituelle. On a l'exemple dans le second livre de Samuel, au chapitre 9, de David qui est dans son palais. Il est bien, il est en paix, il est tranquille, il a son écran 16/9, hein. Il a la Wii, il a Internet, il a tout ce qu'il faut dans son palais. Il est bien. Il n'a plus trop d'ennemis, ou du moins ses troupes sont victorieuses. Et là, il va pousser un cri quelque peu étrange. Puisqu'il va dire, n'y a-t-il personne de la maison de Saül? Ne reste-t-il personne de la maison de Saül à qui je puisse faire du bien? Et David, tu débloques. Tout va bien dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux faire du bien à la famille de celui qui a été ton pire ennemi? Je crois, mes frères et sœurs, que être bien avec Dieu, être en bonne santé spirituellement, être dans un temps fort, dans un temps de victoire, ce n'est pas capitaliser. Il ne faut pas capitaliser. Il ne faut pas thésauriser. Mais il est nécessaire, au contraire, d'investir. David va pousser ce cri. N'y a-t-il personne à qui je puisse faire du bien? Et mon frère, ma sœur, si dans ta vie spirituelle, ça boum, pour parler comme il y a 40 ans, si tu es en pleine forme, si ta relation avec Dieu est fabuleuse, eh bien, il ne faut pas te contenter d'être sous le soleil de Dieu en disant, je suis enfin bien, je vais me reposer un petit peu. Mais il est nécessaire, eh bien, de pousser le même cri de David que David. N'y a-t-il personne à qui je puisse faire du bien? Et quand on regarde un petit peu, il y a toutes sortes de personnes à qui nous puissions rendre justice, à qui nous puissions faire du bien. Dieu, premièrement. Comment puis-je te faire du bien, Seigneur? N'est-ce pas là un cri intéressant à pousser? Comment puis-je te faire du bien? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Voilà, tu m'as tellement donné! Tu m'as fait tellement bien. Je suis tellement content de ce que tu m'as accordé, du salut que tu m'as donné, des progrès que tu me fais faire, de la nouvelle naissance que tu m'as donnée. Comment est-ce que je peux te faire du bien? Oh, vous savez, je suis sûr qu'il vous répondra si vous lui poussez ce cri. J'en suis certain. Seigneur, comment est-ce que je peux faire du bien aux hommes? À qui est-ce qu'autour de moi je peux faire du bien? Est-ce que je peux faire du bien à Kevin? Est-ce que je peux faire du bien à Stéphane, à Nadège? Est-ce que je peux faire du bien à Patrick? À qui est-ce que je peux faire du bien? David va avoir à cœur de faire du bien à Méphibosheth, le petit-fils de Saül. Et nous, nous avons tellement reçu de la part de Dieu. À qui avons-nous vocation à faire du bien? Vous savez, allez bien, comme je disais en introduction à ce second point, ce n'est pas capitalisé, ce n'est pas thésaurisé. On est appelé à être quoi? La lumière du monde. Et la lumière, Jésus dit qu'il ne faut pas la mettre sous le boisseau. Mais quand on rayonne, quand on va bien, mais disons-le! Quand on va mal, ça se voit de suite. Oh là 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 là. Oh, le frère, il va pas bien. Oh là 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 là. Par contre, quand on va bien, on a presque honte d'aller bien. Faut pas trop le dire parce que sinon. Mais disons-le et communiquons-le. La lumière, ça se voit. La lumière, ça se voit de loin. Ça sent. J'allais dire, ça s'entend. Non, la lumière ne s'entend pas, mais ça se voit. Ne nous mettons pas sous un boisseau, mais au contraire, cultivons notre lumière. Faisons-la vivre. Faisons-la voir. Parce que si vous mettez la lumière sous un couvercle, qu'est-ce qui se passe? Elle manque d'oxygène et il ne peut pas y avoir d'oxygène sans lumière, de lumière sans oxygène. Et de ce fait, eh bien, l'état de notre bonne santé spirituelle, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, petit à petit, la mèche s'éteint et la lumière. Et on redevient triste, et puis ça se voit. Combien d'hommes et combien de femmes? Et peut-être que ça vous concerne. Allez bien avec Dieu. Avez une relation avec Dieu. Puis finalement, ne l'ont pas communiqué à autrui. L'ont gardé pour eux en disant, je me repose. Et la lumière s'est éteinte. Mais gloire à Dieu, le Seigneur bien souffle sur le lumignon. Et puis il le rallume. Amen. Il le rallume. Si on accepte qu'on a fait une erreur et qu'on le dit au Seigneur, eh bien il sera celui qui sera capable de rallumer ce lumignon que l'on pense éteint, afin que vous redeveniez la lumière que vous deviez être. Et puis, la lumière, il faut la faire vivre en nous, il faut renouveler l'huile. À l'époque, le Seigneur, c'était des lampes à huile qui étaient utilisées pour la plupart. Et faut renouveler l'huile. J'allais dire, il faut même rallonger la mèche parfois. Offrons les choses. Celui qui arrose sera arrosé. Tu vas bien? Intercède pour ceux qui vont mal. Ne te contente pas de ton état. Comme, je vais dire, je vais être un petit peu dur, mais vous avez l'habitude, un être un petit peu égoïste. Tu vas bien? Prie pour ceux qui vont pas bien. Tu vas bien? Eh bien, saisis d'autres victoires. Tu vas bien? Eh bien, exhorte celui qui est prêt de tomber. Tu vas bien, communique ton énergie, communique ta force. Tu as fait des belles expériences, disons-le. Allons taper sur l'épaule, que Benjamin ait tapé sur l'épaule de Samuel. Et tu sais pas ce qui m'est arrivé cette semaine? Waouh! Le Seigneur est vraiment grand! Le Seigneur est vraiment puissant! On est tellement prompt à se dire, oh, tu sais pas ce qui m'est arrivé cette semaine? Oh là là, ma femme, aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'elle m'en fait voir? Oh là là, mon mari, il a beau être pasteur, mais... Communiquons-nous les bonnes choses. Le monde se chargera de nous communiquer le poison. Il n'y a aucun souci là-dessus. Troisième forme pour gérer ces temps forts, c'est que les temps forts doivent être des temps où l'on consacre. Dans le second livre de Samuel, au chapitre 8 et au verset 6, il est écrit, l'Éternel donnait la victoire à David partout où il allait. C'est incroyable. Les armées de David sortaient, elles étaient victorieuses. Et que va faire David? Suite à ses nombreuses victoires, eh bien, il va consacrer des objets qui avaient été pris, des boucliers, etc. Il va les consacrer à l'Éternel. Et ce matin, en réfléchissant dans mon bureau, je me disais, mais pourquoi est-ce que nos sacrifices, ils se font toujours dans la douleur? Pourquoi est-ce que nos sacrifices devraient-ils toujours être imprégnés de myrrhe? Lorsque l'on sacrifie des choses à Dieu, c'est bien souvent lorsque nous allons mal et lorsque nous sommes au pied du mur, lorsque nous n'avons plus le choix. Alors, la voix de Dieu se fait entendre et nous dit, voilà, tu es dans l'épreuve, et c'est l'épreuve qui va te dépouiller. Pourquoi est-ce que ça ne serait pas un petit peu comme David, tout va bien, j'y remporte des victoires, je suis guéri, des victoires sur moi-même, des victoires dans mon caractère, des victoires dans mon couple. Pourquoi est-ce que j'offrirais pas, c'est ce que j'ai appelé, mais le terme n'est pas théologique, vous m'en excuserez, la dîme de mes victoires. En disant, Seigneur, tu m'as fait remporter un combat qui était perdu depuis bien des années. Tu m'as donné la victoire. Je vais te le rendre. Je vais t'en donner une partie. En retour, tu m'as fait X. En retour, je vais te donner Y. Ça vous paraît logique? Et c'est ce que faisait David. L'Éternel était avec David partout où il allait. Moi, je crois que, et ça, c'est profondément ancré dans mon cœur, trop souvent, c'est l'épreuve qui nous dépouille, qui nous sanctifie, qui nous fait passer au creuset. Alors que dans les temps forts, on aurait pu déjà offrir des choses à Jésus. Ces temps forts, c'est des temps où on se consacre et où, pris par l'amour, pris dans l'élan de l'amour, saisi par l'amour naissant ou l'amour renaissant, eh bien, on dit au Seigneur, ça, je ne te l'avais pas donné, mais je te l'offre. Ça, je ne te l'avais pas communiqué, mais je te le communique. Ça, c'était uniquement pour moi, mais je te le laisse maintenant. Et là, ce n'est plus un sacrifice, une consécration qui est pleine de myrrhe, mais c'est une consécration qui est pleine d'encens, c'est-à-dire l'image de la louange et l'image de l'adoration. Quatrième chose que nous devons, que je vous conseille, que la vie de David nous apprend à offrir, ou du moins à faire dans les temps forts, c'est tisser des amitiés. Premier livre de Samuel, chapitre 18, verset 1er. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Quelle belle image! Et David devient le chouchou de Saül. Et là, il se lie d'amitié avec le fils du roi. C'est un temps fort. Ce n'est pas encore le temps où Saül va jeter la lance sur David, ça ne va pas tarder. Ce n'est pas encore le temps où Saül va vouloir persécuter David, ça ne va pas tarder. Mais pour l'instant, c'est un temps fort pour David. Il est le chouchou du roi, il vient d'abattre Goliath, tout va bien. Et durant ce temps, il va lier une amitié avec Jonathan. Amitié qui lui sera salutaire quelques temps plus tard. Frères et sœurs, dans la difficulté et dans l'épreuve, on n'aura pas envie de se lier d'amitié. Parce que nous le savons, et nous en avons l'exemple avec le prophète Élie, l'épreuve, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous isole, elle nous coupe. Et on n'a qu'une seule envie, c'est d'être un petit peu comme un escargot qui rentre dans sa coquille. Et ainsi, parce qu'on n'a pas tissé de relations, parce qu'on n'a pas tissé de relations de confiance, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on n'a pas de bouée. Et effectivement, dans l'épreuve, on se sent seul. Mais quand tout va bien, n'est-ce pas là le moment pour tisser des relations privilégiées et commencer à nouer des amitiés comme celle de Jonathan et celle de David? Afin que lorsque la difficulté viendra, eh bien, nous ayons déjà des gens qui disent « Attends », qui soient capables de dire « Attends, là ça va pas ». Des véritables amis qui nous aimeront tout le temps. Des hommes et des femmes qui seront nous attirer, nous tenir bon, nous aider à tenir bon dans la foi. Qui seront nous fortifier, qui seront nous exhorter et qui sauront nous faire passer les temps difficiles. Ce n'est pas dans la difficulté que finalement c'est le plus facile de tisser des amitiés. Même si c'est dans la difficulté que les véritables amitiés se vérifient. Mais les liens de communion fraternelle que nous devons tisser, ils seront beaucoup plus faciles à tisser quand tout ira bien et quand tout va bien, quand nous sommes dans un temps fort. Regardez l'Église primitive, sur quoi s'est-elle bâtie? Dans l'acte 2, on les voit tous en train de partager le repas du Seigneur, de prier ensemble au temple, etc. C'était un temps fort. Et d'une manière tout à fait naturelle, l'Église, eh bien, s'est formée. L'Église s'est mise en place. Et je vous ouvre mon cœur, je crois que l'Église vit un temps fort. Et que la communion fraternelle puisse être encore un petit peu plus solide. Que nous puissions avoir un peu plus d'importance les uns pour les autres. Veiller les uns sur les autres. Faire attention à la santé spirituelle les uns des autres. Le diable rugit. Le diable rôde. Le diable cherche qui dévorer. Puis, toutes choses sont précaires. Veillons sur les uns sur les autres. Hein? Et tissons des liens. Te sens seul aujourd'hui dans l'Église? Bien, tissons des liens. Tissons des liens. Afin que dans l'épreuve, eh bien, nous puissions avoir des cordes, des cordages, des hommes et des femmes que Dieu utilisera pour nous ramener, eh bien, sur le bon rivage lorsque nous nous égarerons. Merci Seigneur. Alors, ok, des temps forts nous en aurons. Et je dirais qu'il est nécessaire d'être des fourmis. Le livre des Proverbes, au chapitre 30, vante la fourmi, hein, en disant que c'est un animal sage. Et je crois que le chrétien doit ressembler à une fourmi. Non pas en termes de coiffure. Non pas, mais doit ressembler à une fourmi dans son caractère. Une fourmi, ça engrange quand il fait beau pour l'hiver. Vous connaissez la fable de la fontaine. Et je crois qu'il faut engranger les choses, c'est ce que je disais. Mais une fourmi, ça travaille également. Et avec ce qu'elle a engrangé, eh bien, elle a l'énergie pour travailler, pour œuvrer. Pour faire une fourmilière, paraît-il, c'est quelque chose d'extraordinaire au niveau architectural et au niveau conception. Eh bien, soyons de même. La fourmi, elle ne se repose pas, mais sans cesse, elle travaille. Et que nos temps forts servent à cela, à fortifier notre relation avec Dieu. Maintenant, vous direz-vous, mais oui, pasteur, moi je suis dans un temps faible. Comment je fais? Alors, j'ai beaucoup moins de temps pour le développer, vous m'en excuserez. Mais je pense qu'on parle plus, on parle plus souvent des temps faibles que des temps forts. Alors, comment est-ce que David va gérer les temps faibles qu'il va avoir dans sa vie? Plusieurs choses. La première, c'est dans le calme et le silence. Lorsque Saül va être à la cour du roi, ce roi cariâtre, ce roi animé par un esprit méchant, et ce roi agressif, on peut imaginer toute la frustration qu'il va avoir dans son cœur. Lorsque Saül va lui lancer la lance et va manquer de le tuer, David ne va pas se saisir de l'arme, bien qu'étant un homme de guerre, mais il va partir. Je crois, mes frères et sœurs, que c'est l'une des caractéristiques de David. C'est que dans les situations qui étaient bloquées, et je dirais même jusqu'à la dernière extrémité, David a toujours laissé Dieu agir. Alors qu'il était en fuite, il a eu à deux reprises l'occasion de tuer le roi Saül. Alors que celui-ci était en train de faire ses besoins dans une caverne, alors que celui-ci était en train de dormir, il avait l'occasion de tuer Saül. Mais pour lui, toucher loin de l'Éternel, il n'en était pas question. Saül, c'était les affaires de Dieu. C'était les affaires de Dieu. Ce n'était pas les siennes. Et dans nos vies, dans ma vie, il y a des domaines qui sont du ressort de Dieu. Ce sont les affaires de Dieu. Et c'est lui qui les gère. Quand je peux mettre ma main dessus, c'est une bonne chose. Quand je suis appelé à les maîtriser, pourquoi pas? Mais il y a des choses qui n'appartiennent qu'à Dieu. Et David ne va jamais essayer de brusquer la volonté de Dieu. Mais au contraire, il va laisser totalement la main à Dieu. Quelle est la propriété de Dieu dans nos vies? Quels sont peut-être les domaines où nous avons joué les apprentis sorciers? Où nous avons finalement pris la place de Dieu, un petit peu comme nous l'avons vu, je pense que c'est dimanche dernier, Agar, ou du moins Sarah qui dit à Abraham, va voir ta servante. Hein? Et comme ça, nous enfanterons et la promesse de Dieu pourra, d'une manière implicite, se réaliser. Il y a des choses qui n'appartiennent qu'à Dieu. Et la vie de Saül, David savait que cela n'appartenait qu'à Dieu. Pourtant, ça lui aurait permis d'arriver sur le trône plus vite. Il aurait été roi d'Israël plus vite. Il en avait reçu la promesse. Mais non, ce n'était pas le temps de Dieu. Et David a toujours accepté de laisser le temps de Dieu faire. Il pleurera même sur ses ennemis. Mais gardons, le prophète Ésaïe dira que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Qu'il en soit ainsi. Deuxième manière de gérer ces temps faibles, j'aime beaucoup ce passage. C'est lorsque David commet adultère avec Bathsheba, Nathan vient, lui explique que l'enfant mourra. David va jeûner, va prier, afin que l'enfant vive. Et que va-t-il se passer? L'enfant va mourir. Et pendant tout le temps où David, l'enfant, était susceptible de pouvoir vivre, David va pleurer, va jeûner, va se lamenter. Mais à partir du moment où l'enfant est mort, alors David va se relever. Le texte dit qu'il va relever la tête. Il va relever la tête. Puis, il va consoler sa femme. Il va retourner vers elle. Et celle-ci va enfanter à nouveau. Et de qui va-t-elle enfanter? De Salomon. Et le nom que lui donnera le prophète Nathan, Yehodia, signifie « chéri de l'Éternel ». Et vous imaginez, passez dans votre cœur, je fais une petite parenthèse, « chéri de l'Éternel ». L'enfant, non pas d'adultère, mais l'enfant du couple David-Bathsheba. Et de ce couple, quelque peu étonnant, sur lequel Dieu aurait pu tirer un trait complètement. Le fruit de l'amour de ces deux êtres va naître un enfant qui s'appellera chéri de l'Éternel. Oh, quelle grâce de Dieu! Dieu aurait pu tirer un trait sur notre vie. Dieu aurait pu tirer un trait sur ta vie. Dieu aurait pu dire, pour lui, pour elle, c'est fichu. La cabane est sur le chien. Mais il nous a appelés chéris de l'Éternel. C'est extraordinaire. Chéri de l'Éternel. Paul, tu es un chéri de l'Éternel. Julien aussi. Et moi aussi. Et donc, David va relever la tête. Cette difficulté dans cette épreuve, David ne va pas rester affligé. Quand il n'y a plus rien à faire, quand l'enfant, la circonstance, quand le plan de Dieu a été accompli, David ne va pas vivre dans le passé, mais il va regarder vers l'avenir et il va retourner voir sa femme. Seigneur, que je puisse manifester la même foi et qu'une fois que la chose est faite, une fois que la porte est fermée, eh bien, je puisse être de ces hommes, de ces femmes qui manifestent la même foi que David, qui se tournent vers l'avenir. Et qui repasse par le même chemin. Et ainsi, des circonstances chéries de l'Éternel viendront, parce que le Seigneur a des bonnes choses pour nous dans son cœur. Défrichons-nous un champ nouveau, dira le prophète Ésaïe. Peut-être le temps pour quelqu'un, ce matin, de se défricher un champ nouveau. Vivre uniquement dans le passé. Cultiver des souvenirs moroses, tristes et douloureux, sans jamais regarder vers l'avenir. Défriche-toi un choix nouveau. Quelque chose que tu n'as pas exploré. Parce que finalement, tu es toujours revenu sur tes pas. Et j'allais même peut-être dire un petit peu plus violent, tu es toujours revenu à ce que tu avais vomi. Cette foi avance. Et pour défricher, ça prend un peu de temps, c'est un peu fatigant, surtout quand il y a beaucoup d'herbe devant nous. C'est pas grave, le Seigneur a de bons outils. Il a la bonne faux de la prière, hein. Il a la bonne tondeuse de la parole, il n'y a aucun souci. Défriche-toi un champ nouveau. Alors, en conclusion, notre vie chrétienne ne sera pas faite que de temps forts. sachons le bien. Mais en revanche, si elle sera également faite de temps faible, si je maximise bien la gestion de mes temps forts, si je l'optimise, alors mes temps faibles seront moins douloureux, seront moins difficiles. Pour au moins 5 raisons. La première, c'est que nous aurons tissé des liens avec Jésus, qui est celui qui nous soutient. La deuxième raison, c'est que nous aurons été préparés par le Saint-Esprit à ces temps faibles. Il nous aura armés. Troisième raison, c'est que nous aurons créé des liens avec des hommes et des femmes dans la communion fraternelle qui nous donneront des indications et des conseils qui seront des bouées pour nous lorsque la tempête rugira. Quatrième raison, c'est que nous aurons réglé des problèmes dans nos vies ainsi que nous aurons fermé des accès au diable. Je n'ai pas eu le temps de développer le point, mais quand tout va bien, faisons bien le ménage à fond hein, et allons combattre les Goliaths. Cinquième, nous pourrons remporter des victoires et ce sera des victoires totales. Que le nom du Seigneur soit béni.